Jean-Paul Sartre, l'auteur des mots, c'est un philosophe et écrivain du XXe siècle, compagnon de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, B-E-A-U-V-O-I-R. Rival, mais tu retrouveras ça, tu le chercheras ailleurs, je dis. Rival de...
On fait quoi là, en fait? On part de feuille?
Je vais... Alors, tu veux mon programme? C'est ça, tu veux mon programme? Je vais te présenter brièvement Jean-Paul Sartre pour ne pas attaquer un texte sans avoir présenté l'auteur. Je demanderai à l'un d'entre vous de lire et à quelqu'un d'autre de me dire quel commentaire il a à faire dessus. Hein? Voilà, le programme c'est ça. Ça n'est pas d'expliquer le texte. Hein? Voilà. Donc Jean-Paul Sartre prépare l'agrégation de philosophie, il la rate une première fois, à l'étonnement de tout le monde parce que c'est un élève extrêmement brillant. Et l'année d'après, il la prépare avec Simone de Beauvoir, dont je viens de parler. Ils font, et on fait pour les grands concours, on fait comme ça des groupes de travail. Et l'année d'après, Jean-Paul Sartre est reçu premier à l'agrégation, et Simone de Beauvoir est reçue seconde à l'agrégation de philo, mais féminine, parce qu'à cette époque-là, les deux concours... Les concours hommes et femmes sont séparés. Hein, ce n'est que plus tard qu'on fera des concours communs. Jean-Paul Sartre est nommé prof de philo dans un lycée du Havre. Simone de Beauvoir est nommée à Marseille et un peu déçue. Mais c'est pas grave, tu retrouves, c'est des détails que tu retrouveras. Hein, en cherchant un peu. Simone de Beauvoir donc est un peu déçue d'être loin de Jean-Paul Sartre. Et elle va demander une mutation et obtenir un poste à Rouen. Donc c'est un peu plus près du Havre. J'aimerais bien que le bruit de fond cesse. C'est un peu plus près du Havre. Le problème de Simone de Beauvoir, peut-être aussi de Jean-Paul Sartre, mais là on ne va pas trop creuser, c'est qu'elle intéresse beaucoup ses élèves, mais elle s'intéresse aussi beaucoup à ses élèves, un peu trop, si bien qu'elle va se trouver virée de l'éducation nationale pour détournement de mineurs. Voilà. Ce dont elle ne se vantera pas d'ailleurs dans ses écrits autobiographiques. Dont certaines, vous trouverez en librairie d'ailleurs le livre de telle ou telle de ses anciennes liaisons qui, traumatisées par ce genre d'exploit, hein, et qui ont, à la suite de ça, ont écrit leur vision des choses. Ce que j'étais sur le point de dire tout à l'heure, c'est que Sartre, jusque dans les années 60, c'est-à-dire jusqu'à la mort de... Il n'y a pas moyen de... Jusqu'à la mort d'Albert Camus, on mettra en parallèle Sartre et Camus. Hein? Sartre et Camus vont se connaître, certainement s'apprécier dans un premier temps, et puis ensuite... Je ne dirais pas se détester, mais s'opposer sérieusement. Donc deux grands, on en trouvera d'autres, peut-être, mais deux grands philosophes français. Deux grands philosophes français du XXe siècle, donc Sartre et Camus. Hein, vous pourriez en trouver d'autres, mais comme point de départ, c'est déjà pas mal. Si un jour on vous posait la question, et je vous rappelle que ceux d'entre vous qui passeront en terminale feront philo l'année prochaine. Hein. Simplement, Sartre et Camus ont été très à la mode pendant une période du XXe siècle, mais ils sont à présent plutôt passés de mode l'un comme l'autre. C'est tout à fait regrettable en ce qui concerne Camus, parce que c'est vraiment quelqu'un de... un écrivain extraordinaire. En ce qui concerne Sartre, je pense qu'il y a aussi énormément de choses à retirer. Alors, ce qui a mis un peu Jean-Paul Sartre sur la... ce qui a fait qu'on l'a en partie rejeté, et vous verrez l'espèce de haine qu'il peut y avoir de la part de Cohen, justement, vis-à-vis, moi je dirais, du couple Sartre-Simone de Beauvoir, même s'il ne les nomme pas, ce qui a fait qu'on a mis de côté Jean-Paul Sartre, c'est ses prises de position politique à gauche et puis assez rapidement à l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il a été soutenir des mouvements, des partis ou des journaux d'extrême gauche, qu'il a même pour certains distribué dans la rue. Disons qu'il usait de son aura, de sa personnalité, pour soutenir des groupes qui auraient été censurés, à ce moment-là c'était Pompidou qui était au pouvoir en France, qui auraient été sinon censurés. Il est venu à leur secours. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Sartre comme Simone de Beauvoir se sont usés la santé prématurément avec le tabac, comme certains d'entre vous, mais aussi avec l'alcool. Et en ce qui concerne Sartre, j'ai pas d'information pour Simone de Beauvoir, mais en ce qui concerne Sartre, avec des amphétamines et autres drogues stimulantes, voilà. Ce qui fait qu'il a été assez rapidement esquinté. Et qu'en plus de ça, il a eu des accidents de santé qui l'ont amené à la fin de sa vie à être aveugle et, moi je dirais, en bonne partie, bien, il a terminé un peu gâteux. Voilà. Ce qui lui a fait prendre des positions un petit peu qu'il n'aurait pas prises en étant en bonne santé. Voilà. C'est tout pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si encore deux choses, peut-être encore. Il a commencé à être connu avec un roman qui s'intitulait La Nausée. Voilà, il est à l'origine d'un mouvement littéraire qui s'appelait l'existentialisme. En deux mots, l'existentialisme, c'est l'idée que l'existence précède l'essence, pas l'essence que vous mettez dans le scooter. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'oppose à l'idée des, en quelque sorte, de l'inné, des qualités que vous héritez, des qualités que vous héritez de vos parents, ou du caractère que vous héritez à la naissance. Ce qu'il dit, quoi?
C'est lui qui l'a
créé. Alors, l'idée de l'existentialisme, oui. Il développe dans un ouvrage qui... Comment? Non, c'est une façon de regarder les choses. Tu vas très bien, très rapidement comprendre à quoi ça sert. C'est un outil de combat, d'une certaine façon. Alors, c'est vrai que... Oui. Aux qualités innées, c'est-à-dire ce que tu as à la naissance, ton caractère, ce qu'on appelle ton caractère, qui tu es, toi. L'idée que développe Sartre, c'est que on se fabrique au fur et à mesure qu'on choisit et qu'on agit. C'est-à-dire que l'homme, il est le résultat, non pas d'un caractère, mais il est le résultat des choses qu'il fait. C'est-à-dire que, voilà. Et d'une certaine façon, il y a toujours un espoir, parce que si tu n'as fait que des bêtises, tu peux aussi te mettre à agir correctement. D'accord? Donc il n'y a pas de fatalité, en quelque sorte. Il n'y a pas de fatalité de caractère. Et cette même idée, elle est reprise, je pensais à un auteur de théâtre allemand, Brecht, elle est prise, c'est une position qu'on prend aussi vis-à-vis de l'histoire. Hein, Brecht dit vis-à-vis de l'histoire que il écrit la résistible ascension d'Arturo VIII. Arturo VIII, c'est Adolf Hitler, simplement pour dire qu'il n'était pas du tout fatal qu'Hitler arrive au pouvoir. On aurait pu empêcher. Hein? C'est l'idée donc que l'histoire, c'est pas une fatalité en marche, mais qu'on peut faire quelque chose. Hein? Donc en ce qui concerne Sartre, disons qu'en quelque sorte, tu n'as pas l'excuse de ton caractère. Tu es ce que tu te fais au fur et à mesure que tu agis. Donc ceux qui disent je suis comme ça, je ne peux pas me refaire, ben non, il n'est pas d'accord avec cette idée. Bon, c'est un peu superficiel comme présentation, mais je pense que ça peut vous aider à comprendre. Alors, on ne va pas aller jusqu'au fond du texte autobiographique, mais la question, ça sera, ou les questions, ou les problématiques vis-à-vis de l'autobiographie, ça sera, certainement au départ, qu'est-ce qu'une autobiographie, hein, qu'est-ce qui est et qui n'est pas autobiographique. Alors ça, on peut déjà commencer à y répondre. Hein. Ce qui est autobiographique... Ah bah zut, c'est dur d'y répondre. J'allais dire, ce qui est autobiographique, c'est ma vie, ma vraie vie. On constatera en creusant que c'est pas vrai. Hein? On ne raconte pas sa vie, sa vraie vie. C'est toujours ou mensonger ou reconstruit. Mais enfin, c'est une vraie vie par opposition à ce qu'on appelle... Le roman autobiographique, quelquefois vous avez un héros qui parle à la première personne, par exemple dans La vie devant soi de Romain Gary, hein, le héros s'appelle Momo, Mohamed, il dit « je », mais ce n'est pas l'auteur. D'accord ? Donc ça a tout à fait l'allure d'une autobiographie, mais c'est un personnage fictif. Hein ? Et ce genre de roman, vous en avez tout un paquet. Hein, de romans dans lequel le personnage dit « je », mais ça n'est pas l'histoire de l'auteur. Donc, dans l'autobiographie « Je raconte ma vie », première limite, c'est quoi l'autobiographie? Alors, évidemment, après, il faudra séparer l'autobiographie, par exemple, du journal intime. Hein, le journal intime, je l'écris tous les soirs. L'autobiographie, je l'écris... Alors, ça revient à la deuxième question, je l'écris quand? Sauf avoir peut-être Amélie Nothomb, je ne sais pas, mais elle est déjà dans l'autobiographie, vous l'avez constaté, elle n'est pas vieille. Donc si on met de côté Amélie Nothomb, l'autobiographie s'écrit vers la cinquantaine. C'est-à-dire qu'on, quand on pense, le cercueil est pas loin, il m'attend un peu, et je voudrais soit laisser une trace, hein, laisser une trace de soi avant de disparaître, soit régler des comptes. Hein, soit régler des comptes. Vous constaterez avec Cohen que Cohen sait régler des comptes. Hein, dans « Au vous frères humains », il règle des comptes. Ou, alors ici on va peut-être introduire notre texte, ou raconter, et souvent raconter, et ça sera le cas pour Cohen, raconter un traumatisme de l'enfance. Hein, c'est-à-dire l'enfant a été traumatisé par tel ou tel événement, et ce n'est pas l'enfant qui le raconte, c'est l'adulte qui le raconte des années après. Vous voyez aussi une particularité de l'autobiographie. Le vieux, hein, l'adulte, disons, parle au nom, hein, parle au nom de l'enfant qu'il était. Hein, voir par exemple le titre J'ai pas le nom de l'auteur en tête, vous pourrez le retrouver assez facilement. Hein, le petit roman que certains sans doute ont lu, « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué hein ». Voilà, il y en a parmi vous qui ont aperçu ce roman. Tu voulais dire ? Ah oui, alors tu as raison, j'ai commencé à lire l'autobiographie, le journal intime. Alors, le journal intime, ben, le journal intime, tu l'écris tous les soirs, tu le caches soigneusement. Comment ? C'est un journal intime. Hein ? Bon, mais ce sont des productions proches de l'autobiographie, si tu veux. Hein ? Ok ? Alors, on mettra ça dans le biographique. Hein, dans un bon, alors je n'ai parlé que du journal intime, mais il y a aussi les carnets par exemple, hein, même chose, vous avez les carnets, vous avez les mémoires, hein, vous avez les mémoires. Alors après, si tu dis souvenir, t'es pas loin de l'autobiographie, hein, dans des souvenirs, voilà. Carnet, il y a l'idée un petit peu du journal intime, mais peut-être pas tenu au jour le jour, c'est plus rassemblé par période. C'est des récits rassemblés par période. Pour les carnets, bon, ceux auxquels on pense d'abord, c'est en particulier les carnets de guerre. Hein, carnets de guerre écrits par Guillaume Apollinaire et d'autres, par exemple.